merde, j'ai beugné le vaisseau.
Putain, ça va apprendre à jouer en même temps que piloter. Hein ? À quoi jouer ? Vous connaissez Guilty Gear Strive ? Ah, attendez, ma console est fichue, mais j'ai la bande-son, là, sur mon dispositif sonore portatif. Hein ? Une casserole ? Mais vous vivez à quelle époque ? Bon, c'est pas grave, écoutez ça, plutôt. Et oui, comme promis la semaine dernière, je reviens vous parler de Guilty Gear et plus précisément de son dernier opus, Guilty Gear Strive, sorti le 12 juin 2021. J'espère que cette petite intro vous a plu, car aujourd'hui, accrochez-vous, on laisse place à la magie et au métal puissance 1000. Guilty Gear Strive donc. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas me montrer très objectif envers le titre. En effet, pour ceux qui écoutent Grostik, Guilty Gear Strive, pour moi, c'est un peu ce que représente Pokémon aux yeux de Melissa, Shadow of the Colossus dans le cœur de Joris, Destiny 2 sur l'emploi du temps de Béré, Genshin Impact pour Nathan, ou encore Final Fantasy 9 mode Moguri pour ce bon vieux Léo. En bref, vous l'aurez compris, Strive, c'est tout simplement une de mes expériences vidéoludiques préférées. Je possède à l'heure actuelle 170 heures sur le titre, ce qui n'est pas rien quand, pour rappel, on parle d'un jeu de combat sur lequel je ne cherche pas forcément à devenir le meilleur. Et oui, car comme je vous l'apprenais dans ma chronique sur ce genre de production, on peut s'amuser sans être le plus fort, et je trouve que cette affirmation est encore plus vraie pour cette œuvre. La semaine dernière, Léo déclarait après ma chronique « Tu m'as donné envie de jouer à Guilty ». Eh bien Léo, je te le dis, le Guilty Gear pour découvrir la saga, c'est définitivement celui-ci. Il y a beaucoup de points qui font de ce titre l'un des meilleurs de la série, mais commençons par celui-ci. Qu'est-ce que c'est beau! C'est simple, 2 ans après sa sortie, aucun jeu n'a égalé la direction artistique de Guilty Gear Strive en termes de fidélité à l'animation japonaise. C'est coloré, ça bouge terriblement bien, et surtout la mise en scène et l'ambiance globale de l'œuvre s'est détachée du côté japonaiserie des anciens opus pour quelque chose de légèrement plus mature, qui parle un peu plus à un public occidental tout en gardant l'esprit de sa saga. Pour vous expliquer, vous vous souvenez quand dans ma dernière chronique, j'enchaînais les différentes musique des jeux pour vous prouver qu'elles auraient pu toutes faire une excellente intro, tenez au pire je vous le refais, celle qui m'a changé à jamais, Guilty Gear. Voilà, et donc ces anciennes compositions, elles étaient pensées pour coller avec les introductions des combats, puisqu'elles se lançaient pendant l'avant-match, permettant aux riffs de guitare d'arriver au moment du fameux Let's Rock. Cela dit, dans Strive, les débuts des duels ont été revus et donnent véritablement un côté très dramatique aux affrontements. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts. Heaven or hell. Voilà, ça rigole déjà beaucoup moins puisqu'en français ça donne ça. Les hommes savaient qu'ils ne pouvaient pas changer l'humanité. Alors au lieu de se remettre en question, ils accusent les bêtes. Cette phrase vient faire évidemment écho à l'histoire des jeux de la série, puisqu'ici les bêtes, ce sont les Gears, ces êtres génétiquement modifiés grâce à la magie. Mais on comprend que c'était en réalité un discours à propos de l'oppression que subissent certaines minorités. Mais j'y reviendrai plus tard. La nouvelle esthétique apportée par Strive se remarque aussi dans le look des personnages. Ils sont à la fois tous plus extravagants, mais moins absurdes que dans les anciens titres. On voit bien que les équipes d'Arc System Works ont préféré se rabattre vers des visuels plus métal que manga, et ça colle à merveille avec l'ambiance. Chacun possède son petit style à lui qui reflète clairement son caractère. Avec pour le moment 23 personnages jouables, Love propose vraiment une expérience diversifiée tant chaque combattant et combattante est unique, mais surtout plutôt simple à prendre en main. Un autre point qui fait que ce Guilty est le meilleur pour les nouveaux et nouvelles venues, c'est son accessibilité. Toutes les techniques de combat ont été revues. Si les opus précédents offraient une variété de coups à en faire tourner la tête, Strive a décidé de faire l'inverse et de réduire le nombre de possibilités pour ceux qui n'auraient jamais essayé une production pareille. Alors, évidemment, certains persos sont plus durs à incarner que d'autres, mais l'objectif est toujours de proposer une expérience unique et fluide aux nouveaux arrivants, tout comme aux habitués, d'autant que l'œuvre continue de recevoir des mises à jour. Non, parce que quand je disais pour le moment 23 personnages jouables, il se trouve qu'à l'heure de la diffusion de cette chronique, un combattant inédit débarquera dès demain dans le titre et signera la fin de la saison 2 de Strive. Et oui, c'est vrai.
Wow.
Alors, c'est là où on en apprend un peu plus sur le paysage vidéoludique, ce qui est un peu le but d'exploration, je vous le rappelle. Auparavant, les jeux de bagarre accueillaient des mises à jour d'une manière bien étrange. En effet, les studios de développement ressortaient la même production avec de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux personnages, et les fans devaient ainsi la racheter en magasin. C'est comme ça que sont nées des abominations de titrailles, comme Super Street Fighter 2 Turbo, amélioration de Super Street Fighter 2, qui était lui-même une mise à jour de Street Fighter 2. Alors, ça peut faire rire, mais c'est véritablement une méthode pas très sympathique pour les acheteurs et acheteuses. Cela dit, avec Internet, les nouvelles moutures pouvaient désormais être implémentées sans avoir besoin de repasser au magasin. Cependant, les éditeurs ont tout de même bâti un système plutôt prédateur, puisqu'ils obligeaient les joueurs et joueuses à payer ces fameuses mises à jour qui, pour rappel, certes, ajoutaient du contenu, mais venaient aussi apporter des révisions et corriger des bugs ou divers aspects gênants. Heureusement, à la manière d'autres titres compétitifs comme certains jeux de tir ou de sport, les jeux de combat vont adopter un modèle saisonnier, c'est-à-dire que la production accueillera au moins chaque année une mise à jour gratuite visant à modifier et à améliorer l'expérience de jeu, tandis qu'environ tous les 3 mois, l'œuvre reçoit une mise à jour réglant certains problèmes et qui, pour les acheteurs et acheteuses du pass saisonnier, alors pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, imaginez un abonnement annuel à 25€, leur donne accès à un personnage inédit, dit DLC, pour download content ou contenu téléchargeable en français. Par conséquent, les DLC, qui sont bien souvent payants, ont offert une nouvelle dynamique. Ainsi, même 2 ans après sa sortie, je joue encore à Guilty Gear Strive et je sais déjà que j'y jouerai l'année prochaine puisqu'une saison 3 est prévue. Bon, maintenant que je vous ai présenté en surface le titre et pourquoi vous devriez ne serait-ce que vous y intéresser, je peux désormais passer à quelque chose que je vous avais promis la semaine dernière. Qu'est-ce que cela transmet, Guilty Gear ? De quoi ça traite ? Alors, la licence, avec 25 ans d'existence au compteur, a eu des choses à dire. Tout d'abord, l'exemple vu auparavant, le cas des Gears, faisant écho ici à des populations oppressées pour leurs différences. S'il peut être déjà un thème fort, trouvable dans de nombreuses œuvres comme les comics X-Men, dans la saga, on comprend qu'il ne s'agit que d'un point parmi tant d'autres, relevant des premières influences de la série, le rock et le métal occidental. S'il y a aussi quelque chose qui définit sociologiquement la franchise Guilty Gear, c'est donc la contre-culture et le rejet des normes. Pour saisir là où je veux en venir, il faut se recentrer sur les bases, le premier Guilty Gear. Il a toujours été vu comme un titre un peu à part pour son époque, et même de nos jours au final. Pour Daisuke Ishiwatari, son créateur, le jeu devait être, je cite, « quelque chose de difficile, quelque chose de différent des autres jeux ». Et cette envie de diversité, elle se retrouve dans son personnage principal, Saul Bad Guy. Souvenez-vous, outre le fait qu'il est fan de Queen, ce n'est pas, à la différence de presque tous les protagonistes de jeux de combat historiques, un guerrier né. C'est un scientifique, et c'est un flemmard en plus. Ce n'est vraiment pas une blague, hein. Il est dit que dans chaque opus, il déteste faire des efforts et qu'il ne lutte que parce qu'il se sent moralement obligé. Et ça, on s'en rend compte rien qu'avec un seul aspect de son design, ses cheveux longs en queue de cheval. Quelque chose de rare pour un homme, et encore plus pour un héros de jeu vidéo. Quant à Strive, cette idée de rejet de la société peut s'entendre rien que dans son thème principal, Smell of the Game. Need a new world. On a ici un dialogue avec une première voix disant « Normes, standards, règles, principes doivent être respectés, il est donc temps de se réveiller, la gravité nous maintient au sol. » La deuxième phrase est une métaphore pour signifier que les conventions permettent le bon déroulement de la vie. Une seconde voix répond alors et sonne le début du refrain « C'est de la connerie, flamboyant, mon cœur est toujours flamboyant, si je perds mes ailes, je n'ai pas besoin d'un nouvel ordre mondial. » Un autre passage du morceau est aussi plutôt explicite. My time is my world. Your words will never let me disobey. Et là pour le coup en français on obtient ma tribu et mon monde, tes mots ne me font jamais disparaître. Voilà, je pense que vous comprenez l'idée et que vous serez sûrement capable d'attribuer ces paroles à des centaines de mouvements sociaux, d'autant que cette contre-culture, on la retrouve aussi chez les autres personnages du jeu que je vais cette fois-ci vous présenter au travers d'un des atouts majeurs des Guilty Gear, leur bande-son et surtout celle de Strive qui, plus que jamais, confirme la fameuse blague « Sympa cet album de hard rock, en plus il y a un super jeu de combat vendu avec ». Pour la BO de Strive, Daisuke Ishiwatari a tout simplement pété un câble et s'est dit qu'il était l'heure de se débarrasser des thèmes historiques de chaque combattant et combattante pour leur donner à la place des chansons. Et ces chansons, à la manière d'une comédie musicale, elles sont vectrices de narration tout en sachant qu'elles sont jouées durant les affrontements. Je vais m'attarder sur le cas de 4 combattants et on commence tout de suite avec un de mes personnages préférés. Leo Whitefang. Léo Whitefang, donc, qui n'a rien à voir avec le nôtre de Léo, puisqu'on parle ici d'un grand mec blond ultra baraqué. Oh, Surnommé le lion aux deux épées, Léo est un roi possédant une fierté gigantesque, et c'est quelque chose qui s'entend bien dans Stolz, ou Fierté en allemand, son ancien thème. Cependant, par le passé, Léo a participé à la guerre contre les Gears. Il a même été commandant. Le jeu nous raconte que lors d'une mission, lui et son unité ont fait face à ce qui semblait être une mort certaine, mais son leadership leur a permis de s'échapper et de réussir dans leur autre emprise. Cette histoire, dans Strive, elle va nous être contée du point de vue de Léo à travers son thème Hellfire, qui possède une intro rappelant bien la fierté du bonhomme. Et là, je me dois d'interrompre le morceau pour vous prévenir, tout ne s'est pas passé comme prévu, et Léo a un sérieux problème. Alors, je me doute que vous n'avez peut-être pas compris les paroles, donc je vous les traduis. J'ai fait semblant, dénoncez-moi. Qui peut prétendre ça ? Je suis rentré seul à la maison aujourd'hui encore. J'ai fait semblant, dénoncez-moi. Qui peut prétendre ça ? Mon peuple est mort, mais ces bâtards le sont aussi. Bon, au cas où vous ne l'avez pas, on va s'écouter le premier couplet. I woke up one morning, strangers say hello to me. Two more they name, so they come on the stones. We're going home, but I'm a terrible liar. Forgive me, that's not an act of prayer. Je me réveille un matin, des étrangers me disent bonjour. Demain, leurs noms seront gravés sur des pierres. Nous rentrerons à la maison en vie, je suis un terrible menteur, pardonnez-moi, ce n'est pas l'Arc de Triomphe. À travers les paroles, on comprend ainsi que Léo souffre du syndrome du survivant et d'un syndrome de stress post-traumatique. Le premier peut se résumer de cette manière, d'autres comme moi sont morts, j'aurais pu mourir moi aussi, mais je suis toujours là. Pour le second, il désigne un type de trouble anxieux sévère qui se manifeste à la suite d'un traumatisme. Ici, la perte de ses compagnons qu'il a lui-même mené dans l'autre monde. Dès lors, on saisit quelque chose chez Léo. Il possède un style de combat très particulier, dans lequel il se bat dos à ses adversaires et où il est plus vulnérable, mais surtout absolument redoutable. Ainsi, on comprend au travers de son thème et sa mise en jeu que Léo ne s'est jamais rétabli. Pire, il souhaite y retourner pour en finir. Bring it on, you bastard! Testament. Place maintenant à Testament. Nommé en référence à un groupe de thrash metal, Testament a pendant longtemps été l'antagoniste des jeux. Mais désormais, ce Gear mène une vie paisible loin des problèmes des protagonistes et s'amuse à parcourir le monde. Surnommé Grim Reaper, je ne peux malheureusement pas vous traduire exactement cet alias à cause de quelque chose que son thème « Like a weed, naturally, as a matter of course » nous fait comprendre en décrivant les actions de Testament. Alors, ça peut se rater à la première écoute, mais en décrivant la pensée et les actions de Testament, le chanteur ne cesse d'alterner entre les pronoms. Un coup c'est « he », « il » en français, et un coup c'est « she », « elle » en français. Car oui, déjà à sa date de création, le genre de Testament n'était pas défini, et il aura fallu attendre son arrivée dans Guilty Gear Strive pour enfin en être sûr. Testament est non-binaire, quelque chose qu'a toujours défendu Daisuke Ishiwatari depuis 25 ans et qui appuie encore une fois les liens entre Guilty Gear et la contre-culture. Ainsi, l'alias Grim Reaper se traduit chez nous en faucheuse et j'ai envie de dire que ça lui va bien.
Bridget. Down inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can't go home because I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to blame.
Continuons dans les liens avec la contre-culture, avec le personnage de Bridget. Dans son thème « The Town Inside Me », elle se sert de l'image d'une ville, ou en tout cas de ses bruits, pour décrire un quelque chose qui lui pèse sur la conscience. Elle utilise au fil de la mélodie de très nombreuses métaphores pour dépeindre ce mal, et ce faisant, elle arrive à chaque fois à un peu mieux s'accepter. Cela se comprend notamment par l'ajout de nouveaux instruments à chaque refrain.
Vegetables, I don't like.
The town inside me. Everyone's voice.
Mais alors, qu'est-ce que c'est ce malaise? Bon, vu qu'elle ne l'explicite pas dans le titre, je dois vous spoiler la surprise. Bridget, avant Guilty Gear Strive, c'était un garçon. C'est avec son arrivée dans le dernier opus que Bridget s'est enfin assumée et se définit désormais comme une fille. Ainsi, ce mal-être, c'était une dysphorie de genre, et à la fin de son thème, elle réussit à faire la paix avec elle-même pour aller de l'avant. Une preuve, une fois encore, que Guilty Gear se rangera toujours du côté des opprimés.
Zapto 1.
Et je ne pouvais évidemment pas parler de Strive sans aborder ce thème. Dans ma dernière chronique, je citais à un moment le personnage d'Eddie, nommé en référence au groupe Iron Maiden. Eddie n'est pas un humain, ni même un Gear. Eddie, c'est un être de magie, assoiffé de sang, né de l'ombre d'un orphelin, Zato One. Élevé dans une organisation secrète d'assassins, d'où ce nom si particulier, Zato, afin de prendre du galon, a réalisé un rituel qui a remplacé son ombre par Eddie en échange de sa vue. À la fin du premier jeu, Eddie le trahit, le tue, et vole son corps. Dans le second, c'est Eddie qui meurt suite à la détérioration du corps de Zato. Dans l'avant-dernier opus, ils sont tous deux ressuscités à l'aide d'une magie très puissante. Zato redevient le maître maître à bord, Eddie, ayant compris son erreur, étant désormais ami avec l'assassin. Néanmoins, cette résurrection a eu un coût. Malgré le fait de posséder encore tous ses souvenirs, Zato ne ressent plus rien. C'est devenu un sociopathe au sens médical du terme. Cependant, il y a un espoir que nous laisse entendre son thème. Ce chant que l'on peut entendre en arrière-plan de la mélodie au début du morceau vient représenter les sentiments du personnage. En effet, Zato n'est pas complètement sociopathe, puisqu'une personne réussit à lui faire ressentir des émotions, Milia, une autre combattante du jeu dont Zato était amoureux avant de mourir. Depuis, il ne désire qu'une seule chose, la protéger, malgré la perte de ses sentiments qui occupent pas moins de 4 minutes du morceau. Cependant, en fin de mélodie, après pas moins de 5 minutes de musique, soit bien plus que la durée d'un match dans Guilty Gear, le chant du début revient et va cette fois-ci occuper toute la place. Zato parle de ses regrets et s'adresse en toute sincérité à Milia. Ah, et si vous pensiez que le morceau s'intitule Vanish Into Dark par rapport au refrain, vous vous méprenez car le titre de cette chanson est Let Me Carve Your Way, ou en français, Laisse-moi paver ton chemin. The broken world will cry for humanity. I once had some sweet memories. Each world remains all the same. How can Avant de se quitter, je vous offre une interlude musicale. Je vais proposer à mes camarades de choisir un des thèmes des personnages sur la base de leur titre, mais évidemment, pour nos auditrices et auditeurs, ils sont traduits en français. Je vais lister à voix haute les morceaux. Alors, j'ai dû faire un tri, malheureusement, donc si un nom en particulier sonne bien à votre oreille, retenez-le pour qu'on puisse l'écouter. Ça vous va ?
Ah bah très bien, vas-y, on va se mettre d'accord.
Let's go. Donc, premier titre, Trouvez votre voix unique, Le désastre de la passion, En dehors de la boîte, Jouer le héros, pour quoi vous battez-vous, provoquer, parade rock, le baiser de la mort, le sablier.
Qu'est-ce que ça dit autour de la table? Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire particulièrement?
Le baiser de la mort.
Le baiser de la mort, je trouve que c'est hyper.
Le baiser de la mort. Alors du coup, le baiser de la mort, c'est le thème de Gold Lewis, qui dans le jeu est le secrétaire de la défense absolue américaine. et qui, en fait, le thème est juste une réflexion de la part de Gold Lewis sur le fait que c'est juste un chien de garde pour le gouvernement et que tout ce qu'il fait, c'est être juste un bon toutou qui reçoit des ordres et qui ne change pas grand-chose à la vie des gens. Et c'est ça, le thème de The Kiss of Death.
Not a big deal. We can handle it.
I don't have to think about it.
What we need to do is clear. Don't you think?
I don't know any other answer than yes.
And I don't need to know.
Now it's your turn. Yeah, got your time.
I'm ready. Four is what about you?
Bark and bark is a vacant turn. The only regret that no one knows. Bark and bark, keep going. That's the last sound you ever hear.
The kiss of death.
Sorry about that. You thought it through.
I don't have to think about it.
Out there, those who believe. What about you?
When I'm older, do I do anything?
I want to keep it that way.
Now it's your turn. Could got your time.
I'm ready. Four
is what about you?
Bark and a bark is a lay counter. The only riff that no one knows.
Bark and a bark,
keep going. That's the last sound you ever hear.
Will you think I
the kiss of death.